Bonjour à tous, à toutes et à tous. Ce sera une présentation sans belles photos ni rien. Les seules photos disponibles à l'époque étaient des simples photos de fissuration. L'accident par lui-même n'était pas très photogénique, mais était quand même un des plus importants qu'on ait eu à traiter. Donc ça va, c'est la commune de la Louvière. C'est bon. Donc l'exposé que je vais vous faire va essentiellement passer un peu en revue très rapidement le timing et les conclusions de l'intervention de la ville, de la région, des différents partenaires, plus que s'intéresser à l'accident lui-même. C'est essentiellement donc les interventions de la ville, des services de la région, je dis bien des services, il y en a pas mal, de la faculté polytechnique et de l'institut scientifique de services publics qui nous ont aidés à tous les niveaux. Et on verra un peu le déroulement de la coordination et surtout de la partie communication. Alors c'était aussi le tout premier cas d'ampleur du tout nouveau département de l'environnement de l'eau et de la nouvelle direction des risques industriels, géologiques et miniers. Comme je dis, ça commençait fort. Alors la catastrophe elle-même, le déroulement. Le vendredi 20 février au soir, un coup d'eau brutal au bord de la Haine, un véritable geyser, nous raconte-t-on, qui a jailli à plusieurs dizaines de centimètres de hauteur. Il a été jaugé par les pompiers, 330 mètres cubeurs. Et surtout, à ce moment-là, un fort dépôt de sable, d'argile rouge aux alentours. Les pompiers interviennent directement. Le lendemain, la ville prend en charge, par un entrepreneur, la création d'un fossé de quelques mètres qui joignait le geyser à la Haine, qui coule juste au pied, donc de façon à évacuer les eaux, parce qu'il y avait une maison là à côté, en contrebas, qui était fortement touchée par les boues. Le 23, on est le lundi matin, des fissures apparaissent dans plusieurs habitations à 650 mètres plus au nord, avenue de l'Europe. A priori, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de lien entre les deux. Le 24, les fissures s'accentuent. En fait, il semblerait qu'il y ait déjà eu des craquements le dimanche dans les maisons. Là, les riverains s'inquiètent et appellent la ville de la Louvière dès 7h du matin. La ville réagit très très vite, se rend sur place, et à 9h30, elle appelle la cellule sous-sol géologie. C'était avant le service géologique de Wallonie, la cellule mine. Donc deux agents se rendent sur place pour voir un peu ce qui se passe. Dans le courant de la journée, il y a déjà deux maisons qui sont à ce point fissurées et dangereuses qu'elles sont évacuées et frappées d'un arrêté d'inhabitabilité. Alors voilà un petit croquis des lieux, c'est pratiquement le seul plan qu'il y aura. Donc tout en bas, à la Haine, c'est le tracé d'une galerie, je vais revenir dessus, d'une ancienne galerie très mal placée, c'est pour ça qu'il y a deux tracés d'ailleurs. Tout en bas, le gros rond orange tremblotant, c'est la sortie de la galerie à la Haine, là où a eu lieu l'irruption d'eau. Le deuxième rond orange, ça représente à peu près en taille réelle le diamètre de la cuvette d'affaissement qui va résulter des mouvements de sol dont je vais vous parler. Et donc tout au nord, là-bas, on est directement sur le chemin de fer et on a la ville de la Louvière. Donc voilà. Le 25-26, donc mercredi et jeudi, la situation continue d'évoluer. Deux autres maisons gravement touchées, deux autres plus légères, et on voit se dessiner un affaissement général de 60 mètres de diamètre. Mais très ténu, c'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas photogénique. À ce moment-là, je décide avec la géologue qui avait levé la carte géologique plus au nord, qui est responsable ici de la carte géologique chez nous, et un agent de la cellule, Patricia Ruscard, d'aller voir sur place, parce que c'est inhabituel. On fait ouvrir le centre de la voirie à la pelleteuse avec la ville. Tout ce qu'on trouve, c'est un sol très dur, très costaud, au point qu'on ne sait pas y enfoncer de tuyaux poussés par la pelleteuse. Donc on sent qu'il y a quelque part un effort de compression à ce niveau-là, et c'est ce qu'on pressent avec le centre de la cuvette. Le concessionnaire de mine arrive à nous fournir un plan, le seul à l'époque connu, montrant une galerie d'exor, toute petite, qui débouche à la Haine. C'est une galerie qui fait de l'ordre du mètre carré de section. Mais le plan n'est pas précis, on sait juste qu'elle passe par là. Les plans sont recalés, ça donne un calage à 20 ou 30 mètres près dans les environs du quartier. Et on fait une première analyse géologique parce que les 75 mètres cubes de sable estimés d'argile sortis là-bas à la galerie, on n'en comprend pas l'origine. A priori, ils n'ont pas à être là. Le 27, on continue les travaux d'investigation. On se rend de nouveau sur les lieux avec la faculté polytechnique de Mons. Je repasse encore le week-end, je repasserai deux ou trois fois comme ça le week-end pour suivre un peu. En gros, fin de semaine, la fissuration ralentit. Voilà. Début mars, on continue les travaux. La SBL Séros procède à notre demande et commandée par la ville à des sondages d'intérieur mécanique pour se faire une idée de la géologie locale qui ne correspond pas à ce qu'on avait sur la carte. Et surtout, le plan d'urgence communal est déclenché. Hein? Et donc, sur proposition ici des techniciens, notamment de la direction de la géotechnique qui nous a rejoint entre-temps, ils décidaient que la ville et la région prendront des mesures en charge, notamment des mesures en continu du débit à l'exutoire, forêt et quatre forages carottés, ce qui n'est pas donné. Je crois qu'on était au demi-million pratiquement. Il y en aura aussi au final. Faire des essais de traçage à partir des forages, équiper les forages en piézomètre de façon à pouvoir avoir un peu un suivi. C'est aussi le premier point presse. Le lendemain, on est toujours sur place, on continue à chercher. On a peut-être une explication par la présence d'un puits naturel de type puits à Iguanodon qui pourrait expliquer la présence de Weldiens sur place. C'est pratiquement la seule solution pour une présence locale. Le 5, le jeudi, on a déjà une deuxième réunion de crise à l'hôtel de ville. On a un deuxième point presse et on a surtout, et ça c'est très important, une première séance d'information aux riverains dans le quartier, dans une salle communale qui était juste un peu plus haut, à la limite de la cuvette. Ce qui a permis directement de parler aux riverains dans leur ensemble, parce qu'entre-temps, on avait déjà lancé beaucoup le dialogue au niveau des riverains en particulier. Le 6, on reçoit, miracle, une publication de 1849 qui raconte le creusement de cette galerie, parce que techniquement, c'était quelque chose de compliqué, et à l'époque, on se rend compte qu'ils ont déjà vécu un coup d'eau, un gros affaissement en surface, alors que ce n'était que des prairies. Et là, c'est fabuleux, on comprend enfin la situation, il y a effectivement ces fameux sables weldiens sur place, qui n'étaient pas cartographiés parce qu'ils n'affleurent pas, et on manquait de sondage. Donc on sait que dans ces sables, il y a des nappes d'eau sous pression, des nappes d'eau captives. Donc, les premiers forages commencent le 9, donc la ville a fait très vite. Ils vont se dérouler pendant pratiquement 3 semaines. Ils vont être équipés, ils vont être suivis par les géologues de la carte géologique de Wallonie et la géologue du service. Ils sont équipés en piézomètre par la direction de la géotechnique. Vers le 10 mars, l'eau cesse de couler à l'exutoire. Il en était déjà parti pratiquement 100 000 m3, c'est une estimation. Le mercredi, nouvelle réunion de crise, nouveau point presse. Et donc on est toujours là, sur le terrain. Quelques jours après, nouvelle réunion de crise à l'hôtel de ville, un quatrième point presse et une deuxième séance d'information aux riverains, ce qui permet de leur expliquer où on en est dans la gestion et dans la compréhension du phénomène. Du 1er avril, enfin, en gros tout le mois d'avril va être consacré à l'exécution des 3 derniers forages. Il faut savoir qu'il y avait les vacances de Pâques qui tombaient pendant ce moment-là aussi. On sera là pratiquement en permanence, en tout cas très très régulièrement. On fait même des journées de 17 heures, ça va, c'est pour vous dire. Le 1er avril, 5e réunion de crise, 5e point presse, donc c'était très organisé, la ville a vraiment suivi, et 3e séance d'information aux riverains encore. Donc ces séances toujours en soirée aussi, de façon à ce que le maximum de personnes soient présentes. À aucun moment, les gens n'ont été laissés devant l'inconnu. Alors ça a tellement calmé les riverains qu'on retiendra toujours ce monsieur qui habitait la maison qui avait basculé en face et qui n'attendait qu'une chose, malgré l'effondrement, c'était de partir prendre ces 3 ou 4 semaines au bord de la Semois, je crois, à la pêche, comme chaque année, sachant qu'en gros la maison était entre de bonnes mains pendant ce temps-là. Donc le climat était, je veux dire, assez relax vu la situation. Le 2 avril, on vidange enfin des cuves à mazout qu'on demandait depuis une dizaine de jours, qui étaient enterrées. On aura ensuite une réunion avec le service travaux pour voir des aménagements à faire au niveau de l'exutoire à la haine, pour essayer de freiner, ou en tout cas de ne plus provoquer de coups d'eau par la suite. Fin avril, début mai, les différents intervenants de la région se rassemblent pour préparer un rapport coordonné. Il nous fallait un rapport le plus complet possible. On commençait à comprendre des choses. Il y avait eu de la géophysique par la faculté polytechnique, payée par la ville. Et donc, on va y retrouver les gens de la cellule sous-sol géologie, qui est mine et géologie, la direction de la géotechnique, les géologues de la carte géologique de Wallonie, la faculté polytechnique de Mons, donc des gens qui s'étaient investis vraiment à temps plein. Le 19 mai, on peut enfin remettre un rapport au bourgmestre, avec en annexe un rapport vulgarisé à destination du public. On a la 6e et dernière réunion de crise à l'hôtel de ville. On discute du rapport, un point presse, et là aussi, c'est normalement, je me suis trompé, c'est la 4e séance d'information où on présente aux riverains directement, donc dans le foulé même de la réunion à l'hôtel de ville, on leur présente les résultats. Pour votre enseignement, on va vous expliquer en 2 mots ici les résultats, c'est une conclusion très synthétique. C'est une petite galerie d'exor, 1,20 m² de section, en maçonnerie, bien épaisse. On sait une chose, elle a dû se rompre sous le site. On ne sait pas si elle s'est rompue et c'est la cause du mouvement ou s'il y a déjà eu un premier mouvement de terrain qui a rompu la galerie. Elle se trouve à cet endroit-là dans des sables boulants, sans tenue. Hein ? On a eu un premier problème semblable vers 1800. La description du creusement montre qu'on est en plein sable boulant, des lentilles et tout ça intercalé dans des argiles, inconnues en géologie. C'est un aquifère isolé, sous pression, Et il a pu se vider à ce moment-là par la galerie. Il a entraîné pratiquement 150 000 mètres cubes d'eau à la haine. Ça l'a dépollué un peu. Hein, et l'équivalent de 75 mètres cubes de sable. Et en fait, vu la géologie locale, ici, ce qui s'est passé, c'est que les couches du dessus ont dû s'affaisser devant cette diminution de pression et devant ce vide partiel, et descendre par bloc, par à-coup, ce qui expliquait que la maison, on voyait les fissures dans la journée s'ouvrir et se fermer. On voyait un tuyau entrer, sortir du mur sur plusieurs centimètres, tuyau de gaz, par exemple. Et on se retrouve finalement avec une cuvette d'affaissement de 60 cm de diamètre en surface, avec des dommages assez concentrés au centre. L'ampleur des dommages, ben c'est clair, c'est la géologie particulière des lieux qui a joué le rôle d'amplificateur. Une petite galerie comme ça ailleurs, ça ne pose aucun problème, ça ne se voit même pas souvent. Il restait certaines investigations à faire, ce qui sera fait par la suite, suivi des piézomètres, collecte de nouvelles données, on a eu très peu de résultats. Donc, le concessionnaire avait commencé une étude hydrogéologique, il a été mis hors cause, il n'a plus joué. L'ICEP nous a aidé par la suite à mieux comprendre le phénomène, à bien analyser les données du point de vue hydrogéologique, géologique et autres. Christophe Fipia s'était occupé de ça. Donc, on a une solution à proposer maintenant pour l'exutoire qu'on proposera cette année à la ville. Alors, les points forts de cette gestion, c'est ce que je disais. C'est pour nous l'exemple d'une situation bien gérée. Il y avait une organisation de qualité sur place par le bourgmestre et services d'urgence, une intervention précoce, on a eu des équipes pluridisciplinaires qui ont travaillé en coordination, on a eu un déploiement de moyens techniques proportionnels au fur et à mesure et une prise en charge directe par la ville là où il le fallait, avec pas mal de contributions bénévoles. Une très bonne gestion de la communication, tant sur le terrain avec les riverains que pour la presse et que sur l'ensemble du quartier, et en accompagnant presque quotidien au départ des riverains. Donc, certains agents du SPOE, je pense à Patricia notamment, passaient leur temps à rassurer, à expliquer ce qu'on faisait. Et donc, la ville avait mis également en place une cellule d'accompagnement pour ces gens-là. Donc, c'est une gestion qui s'est passée vraiment sans heurts et assez curieusement, pour une fois, sans suite judiciaire. Je pense que c'est le meilleur de ce qu'on pouvait faire pour tout le monde. Et donc, là, une petite liste pour terminer de toutes ces personnes qui étaient présentes et qui nous ont assisté pratiquement quotidiennement ou au moins plusieurs fois par semaine pendant pratiquement 2 mois. Voilà. Je vous remercie.